16 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Souvenir FM. Il est midi et vous écoutez l'invité du 12-13, votre rendez-vous quotidien dédié aux personnalités et aux événements qui animent notre région. Aujourd'hui, pour bien terminer cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir l'association Transition Énergétique Saint-Paul TESP. Je suis ravi de partager cette heure avec vous en compagnie de François Carbonel et Bernard Savary. Bonjour François, bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Comment allez-vous ?
Plutôt très bien.
Bernard,
de même.
Pas de stress ?
Aucun stress.
Vous devenez des habitués, Bernard et François ?
Un petit peu, oui.
Vous étiez venu nous voir en novembre, je crois, un petit peu, pour discuter un petit peu de cette centrale Candate. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu pendant cette heure.
Impeccable.
De nombreuses avancées à nous exprimer aujourd'hui.
Ah oui, ça a pas mal progressé depuis.
Bon, mais c'est tant mieux. Au programme aujourd'hui, nous découvrirons comment votre association œuvre pour soutenir l'ambition de la municipalité de Saint-Paul et d'Ax de devenir une ville à énergie positive d'ici 2030. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place au flash info national et international. Ne bougez pas, on revient juste après.
Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
L'essentiel de l'info, c'est maintenant.
Bonjour à tous. 5 départements du Sud en vigilance orange ce vendredi. L'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône pour vent violent. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault pour vagues submersion à partir de 14h. Volodymyr Zelensky sera reçu jeudi prochain à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron qui organise un sommet de la coalition des volontaires avec plusieurs dirigeants européens. Le chef de l'État qui soutient la proposition américano-ukrainienne d'un cessez-le-feu de 30 jours critique une réponse qu'il juge très décevante de la Russie. Le procès du djihadiste Mehdi Nemmouche, accusé d'avoir été un geôlier d'un journaliste français à l'assaut du groupe État islamique en Syrie en 2013, touche à sa fin. Il s'est exprimé pour la dernière fois ce matin avant que la cour d'assises spéciale ne se retire pour délibérer. Il ne s'est ni excusé, n'a prononcé aucun regret. Le verdict est attendu après 18h. À La Réunion, deux personnes âgées de 86 et 96 ans, dont une présentait des comorbidités, sont mortes des suites du chikungunya, selon la préfecture de Lille. L'épidémie s'intensifie sur place avec plus de 8500 cas autochtones recensés. L'aéroport londonien Heathrow est fermé pour toute la journée aujourd'hui à la suite d'une panne du réseau électrique déclenchée par un incendie, ce qui a engendré des perturbations dans le trafic aérien mondial. Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce avoir tué le chef de la sécurité intérieure du Hamas lors d'une frappe à Gaza. La Maison-Blanche affirme que le président des États-Unis, Donald Trump, soutient pleinement les opérations israéliennes. Deux supporters nantais qui avaient agressé une famille fan de l'OM en septembre 2023 à La Beaujoire ont été condamnés jeudi à 14 mois de prison avec sursis et à une interdiction de stade pendant 3 ans. Football toujours mais côté terrain, les Bleus ont déçu hier soir. Les joueurs de Didier Deschamps se sont inclinés 2-0 face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Match retour dès dimanche. Et puis la France est à la traîne en matière de bonheur. Le pays ne se classe que 33e au classement de l'ONU des pays les plus heureux du monde.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13.
Et nous sommes de retour sur Souvenir FM, toujours en compagnie de François et Bernard pour parler de votre association, l'association Transition Énergétique Saint-Paul, TESP. Alors on dit bien TESP.
Tout à fait.
Alors on parle un petit peu aujourd'hui de votre association. On vient d'écouter justement au Flash Info que la France était désormais 33e au classement des pays dans le monde les moins heureux. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce qu'il fait bon vivre, vous, à Saint-Paul et Dax ? J'allais vous poser un petit peu cette question. Moi, je pense qu'il fait bon vivre à Dax et dans le Grand Dax.
Ah, personnellement, moi, je trouve ça très, très agréable. Ça fait bientôt 7 ans que je suis là et effectivement, on continue de se féliciter du choix.
Oui, donc il fait bon vivre à Saint-Paul et Dax. Vous en pensez quoi, Bernard, vous ?
Alors, moi qui suis landais depuis toujours, je suis beaucoup plus heureux que ce qui a été dit. Je pense que 33e, c'est loin, loin, loin.
Ah oui, c'est loin.
On est mieux que ça ici.
Ah oui, c'est la Finlande qui est première, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Oui,
les pays nordiques. Oui, voilà.
Ouais.
C'est vrai que ce sont les pays nordiques. Alors, on parle un petit peu de votre association, l'association de transition énergétique de Saint-Paul. Alors, moi, j'aimerais un petit peu vous rappeler un petit peu votre existence, la genèse de la création de votre association en 2021. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous la rappeler ?
Bon, je vais commencer. Donc, l'association s'est mise en place suite à la volonté de la municipalité, donc, de devenir une ville à énergie positive en 2030.
Très bien.
Et donc, on a mis en place trois actions principales. La première, c'est l'animation citoyenne pour sensibiliser les gens à la transition énergétique, pour les accompagner, pour vraiment mettre ça en place, cette sensibilité à la transition énergétique. Ensuite, on a mis en place les mesures de réduction de la consommation, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. Et puis enfin, la production d'énergie renouvelable. Et donc, on accompagne les gens qui sont intéressés pour mettre en place une production d'énergie renouvelable. Dans le pays, c'est solaire. Voilà, donc ce sont nos trois priorités. Et donc, on a mis ça en place en 2021, une association qui était issue d'un groupe de travail qui a été mis en place par la mairie.
Quasiment 4 ans d'existence ?
Eh oui.
Bientôt. Alors, on parle aussi de vos objectifs. Quels sont les principaux objectifs que vous poursuivez pour promouvoir la transition énergétique ? Alors, on sait que vous vous basez un petit peu dans les Landes, mais surtout dans la commune de Saint-Paul-les-Dax, Bernard, peut-être ?
Alors, oui, non, pas que la commune. Oui. On essaie d'agir sur le rang d'Ax et même au-delà. Notre objectif principal, c'est de sensibiliser les gens à tous les problèmes liés au développement durable et aux économies d'énergie. C'est un projet transpartisan parce que je pense qu'il faudrait que tout le monde s'associe pour s'engager dans cette lutte qui est essentielle. Bon, toutefois, nous, on a privilégié comme public les scolaires.
Très bien.
Donc les écoles élémentaires, collèges et lycées, où nous intervenons régulièrement. On pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez.
Bien sûr, avec plaisir. On parlera notamment de vos actions de sensibilisation. C'est important de le mentionner. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous vous sentez, au fur et à mesure des années, alors peut-être depuis 2021 et après justement l'après-Covid, des personnes qui sont soucieuses des problématiques environnementales ?
Alors, oui, on l'a vu au tout début, avant que l'État revienne en arrière sur les aides qu'elle a apportées dans ce domaine, quand il s'est agi de rénovation thermique des bâtiments. On a eu pas mal de sollicitations. On avait établi un partenariat avec Solia et France Rénov.
Bien sûr.
On essaie de faire des recherches. Mais la source s'est vite tarie. Et il y avait les problèmes administratifs. Il y a les problèmes aussi de l'engagement de l'État qui était à géométrie variable et qui déstabilisait pas mal les populations. Même s'il y a eu quand même quelques projets qui ont avancé, quelques résultats qui sont très, très satisfaisants. Mais pour... pas assez de situations, à mon avis.
Oui, évidemment. Vous, peut-être, François, vous avez quelque chose à nous dire concernant. Est-ce que vous sentez que, vous sentez une population landaise plus soucieuse justement de l'environnement ?
Alors, on a senti effectivement une nette progression au fur et à mesure des 4 ans. Mais là, effectivement, dernièrement, on sent qu'il y a un changement de préoccupation. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est assez général. Et donc, on peut dire que, effectivement, j'ai eu l'impression que notre action, quand même, faisait quand on croise des gens, ils avaient déjà entendu parler de l'affaire qu'on porte.
Bien sûr.
Et là, maintenant, on sent qu'il y a d'autres préoccupations.
Oui, forcément. On parle aussi peut-être un petit peu de vous. Alors, est-ce que vous collaborez peut-être avec des collectivités, des municipalités ? Je suppose peut-être avec la commune de Saint-Paul-les-Dax.
Alors, personnellement, je suis conseiller municipal, donc depuis
un
an. Voilà. On a toujours été très, 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 très bien accompagnés, accueillis. Il y avait déjà deux ou trois conseillers municipaux qui étaient dans le groupe. Et donc, c'est sûr que ça aide. Et vraiment, la coopération avec la mairie est un élément très, très important. Et on se sent vraiment soutenu là-dessus. Le maire nous soutient énergiquement. C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est gratifiant, surtout pour vous, de voir que des municipalités s'engagent.
Oui, c'est gratifiant quand les préconisations que l'on soumet sont retenues. Là, on a l'exemple récent du projet d'Ombrière sur le vieux parking de la mairie. Et on avait aussi souhaité que ce soit précédé d'une destruction du parking bétonné pour le remplacer par quelque chose de moins... de désartificialiser. Et ce projet a été retenu et il paraît que les travaux vont commencer au mois de juillet. Nous en sommes vraiment satisfaits puisqu'après, il y aura des ombrières avec sur les ombrières des panneaux photovoltaïques. Donc, la mairie pourra utiliser cette électricité en autoconsommation patrimoniale. C'est remarquable.
Donc, c'est des préconisations qui sont entendues, y compris par les
oui,
municipalités.
Oui, ça a été pris en compte. Ça a été un peu long, mais de toute façon...
Oui, tout ne se fait pas comme ne s'est pas fait dans un
jour.
C'est
le projet retenu à la fin et qui soit bien fait.
Très bien. Bernard, François, je vous propose de faire une première pause musicale et on se retrouve juste après. On va parler un petit peu de justement ce projet Candate. Candate, on a hâte finalement, c'est peut-être
ah
ça.
Ah oui, c'est ça.
C'est la date, phrase parfaite. Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
Sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13.
C'était Respire de Mickey 3D, un titre que Bernard, notre invité, nous a suggéré. Bernard, vous avez apprécié ?
Ah oui, il y a toujours le contraste entre la gaieté du refrain, le dynamisme et puis des paroles dures.
Oui, la réalité hein finalement. Ouais. Nous sommes de retour justement avec l'association de transition énergétique de Saint-Paul avec François et Bernard. Alors on a un petit peu présenté votre association durant la première partie de l'émission. Mais évidemment, il y a de nombreuses choses encore à mentionner et notamment ce projet Candate qui est un petit peu votre projet phare. Voilà, on en a un petit peu, vous en êtes fiers, on peut le dire. Vous êtes modeste, mais vous en êtes fier quand même.
Ah bon, on est très fier, oui, effectivement. Je pense qu'on en sera encore plus fier, effectivement, quand il sera mis en service. Mais pour l'instant, effectivement, on est content que ça avance bien.
Très bien. Est-ce que vous pourriez nous détailler ce projet alors, de centrale photovoltaïque Candate ?
Alors, pour mémoire, il s'agit donc d'une centrale photovoltaïque au sol sur l'ancienne déchetterie de Saint-Paul.
Très bien.
Déchetterie donc qui fait 10 hectares et sur lequel on va en équiper 5 pour respecter la forêt et les espèces protégées. On va en équiper 5 de panneaux solaires pour produire donc de l'électricité pour environ 2500 foyers.
Très bien. Quel est son impact attendu sur la communauté locale alors,
Ça produit plus que ne consomme la commune de Saint-Paul, la ville de Saint-Paul, en termes d'énergie. Donc ça, c'est déjà un premier repère. Et puis je disais donc 2500 foyers. Donc l'électricité qui sera produite là n'aura pas transité par les réseaux. Donc ça va faire une diminution des pertes, puisque en gros, pour transporter l'électricité de la centrale quand elle est distante du point de consommation jusque chez vous, eh ben, il y a 10% qui partent ce qu'on appelle en perte en ligne.
D'accord.
Et donc, du fait que la centrale sera très proche, on n'aura pas ces pertes en ligne. On aura beaucoup moins de pertes en ligne.
Très bien.
Donc ça, c'est déjà un premier aspect.
Oui. Il y en a de nombreux d'autres. Comment avance le projet ? Est-ce qu'on peut Alors, on parlait notamment peut-être d'inauguration, mais c'est pas encore. Hein, ça, on est un petit peu encore dans le futur. Est-ce qu'on peut dater même l'inauguration ou pas du tout ?
Alors l'inauguration, je ne sais pas. Il y aura sûrement des événements qui permettront de médiatiser un peu ce qu'on fait. On prévoit le début des travaux au 1er octobre.
Très bien.
Enfin, des travaux de construction de la centrale elle-même, évidemment. Il y a d'autres travaux qui ont déjà commencé. Mais nous sommes là. Alors, nous avons eu le permis de construire. Ça, c'était une étape très, très importante. Ensuite, on a la promesse de raccordement par Enedis. Ça, c'est une deuxième étape. Et la troisième, c'est la réponse que nous espérons tous favorable de l'appel d'offres à la commission de régulation de l'énergie que nous avons déposé le 18 décembre. Et normalement, c'est la semaine prochaine la réponse.
Donc, on croise les doigts.
Plus que croiser les doigts, oui.
Alors, il faut préciser quand même l'appel d'offres en question, c'est si on nous répond positivement, ça veut dire que notre prix de rachat de l'énergie sera garanti pour 20 ans. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'on est dans une démarche qui n'est pas spéculative et donc c'est un facteur de stabilité du prix de l'énergie. On a vu dans une époque récente que les prix de l'énergie, ça avait une petite tendance à fluctuer de manière très, très forte. Ben nous, notre centrale, elle aura un prix stable.
Voilà, et le prix est garanti par l'État. Si nous vendons notre électricité plus chère, on paye à l'État. Et si on la vend moins cher que le prix convenu dans l'appel d'offres, eh ben, c'est l'État qui nous verse la différence.
Très bien. Il y a aussi eu un événement durant le mois de février où vous avez un petit peu présenté ce projet Candate au grand public. Et vous avez même incité, on a pu voir une participation citoyenne. Alors comment se décline cette participation citoyenne ? Qu'est-ce que vous attendez des citoyens ? Comment on peut s'engager finalement, François ?
Alors effectivement, le 7 février, donc, on a ouvert entre guillemets la participation citoyenne lors de la fête du permis de construire et de la participation citoyenne. Et donc on a offert la possibilité aux personnes qui le souhaitent, alors que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales d'ailleurs. Faut pas oublier qu'il y a des entreprises qui ont peut-être envie de contribuer. Et donc de participer à ce projet qui est vertueux, hein, tout le monde nous le dit en tout cas. Et donc permet de le soutenir. Soutien financier, puisque le prix d'une action est de 50 euros. Et donc, c'est surtout un soutien moral que ça apporte. Pour le plan financier, donc, on a a priori une garantie de financement par les acteurs qui se sont déjà engagés. Mais le fait que les citoyens s'engagent dans cette démarche, c'est, pour nous, c'est une garantie de réussite, parce que ça permet au projet d'avoir une légitimité bien plus forte que si c'était simplement des acteurs professionnels du domaine. Et donc le fait que les citoyens s'engagent là-dessus, c'est vraiment pour nous très très important. Et donc on a déjà quelques... on a une cinquantaine de personnes qui ont déjà répondu présent, et on souhaite que ça s'étende encore.
Évidemment. Vous parliez notamment d'entreprises qui souhaitaient participer. Comment une entreprise peut-elle contribuer, participer, soutenir le projet ?
Alors, c'est très simple. Comme tous ceux qui veulent soutenir le projet, ils vont sur le site tesp.fr, Transition énergétique Saint-Paul, donc c'est tesp.fr. Et là, vous allez voir, il y a un petit bandeau qui dit « Je deviens actionnaire de Candat ». Vous cliquez dessus et tout est expliqué et il n'y a plus qu'à suivre.
Il y a déjà deux entreprises qui se sont manifestées.
Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, Bernard, que des entreprises...
Un soutien financier, certes, mais surtout un soutien psychologique et humain. Et d'ailleurs, moi, ce que je souhaite, c'est que d'autres personnes nous rejoignent pour les activités liées à notre investissement, en particulier dans Transition énergétique à Saint-Paul, pour des actions d'éducation populaire ou à destination des scolaires.
Évidemment. On parlait notamment, alors peut-être, de ce projet Candat. Alors, la centrale sera-t-elle grande ? Alors, je suis totalement ignorant, hein, je ne vous mens pas, je cherche à en apprendre un peu plus. Comment un petit peu se forme cette centrale ? Peut-être François.
Alors, il y a une surface de 5 hectares, hein, donc ça fait, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 5 terrains de football, à peu de choses près.
D'accord.
Et donc, voilà, on dispose des panneaux solaires sur cette centrale. Il y a un poste qui regroupe toute l'énergie qui est produite et qui la délivre au réseau. Et donc, il y a un raccordement qui sera fait par Enedis, hein, la distribution d'électricité, qui va permettre d'injecter sur le réseau électrique l'énergie qui sera produite.
Très bien. Et comment sera distribuée un petit peu cette énergie, François ?
Alors, si on parle de l'énergie physique, elle ira au plus près, parce que l'énergie va toujours au plus près. L'énergie électrique va toujours au plus près de là où on a besoin. Vous l'injectez quelque part, le premier qui se situe sur le réseau, c'est lui qui l'aura. Après ça, il y a l'aspect commercial des choses. Et donc, l'aspect commercial, ça veut dire que l'énergie sera achetée par un prestataire. Pourquoi pas Enercoop, par exemple, qui est notre partenaire actuel et qui va être obligé de nous quitter, qui va acheter cette énergie pour la revendre à des clients qui seront dans la région ou pas. Mais ça, c'est l'équilibre du réseau qui fait que cette distribution commerciale se fait sur le principe du timbre-poste, en fait. C'est-à-dire que l'énergie sera produite à Saint-Paul. Si un client lillois qui l'achète, ce sera le même prix que si c'est un Saint-Paulois qui l'achète.
Très bien. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu, François, Bernard. On va marquer une seconde pause musicale. Et moi, je vais vous laisser avec la rédaction pour le Flash Info local. Et on se retrouve juste après. On parlera un petit peu de vos actions, et notamment vos actions de sensibilisation. Est-ce que ça vous va, messieurs ?
Très bien.
Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
Économie, sport, environnement politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13.
C'était Celebration de Cool and the Gang. Nous sommes de retour sur Souvenir FM avec l'association Transition énergétique de Saint-Paul, avec Bernard et François. Ça va toujours, messieurs ?
Impeccable.
Alors, on a parlé un petit peu de votre association, de ce projet Candat qui avance bien, mais on parle aussi un petit peu de nombreuses autres actions que vous menez, notamment ces actions de sensibilisation. Bernard, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Alors, la première, la plus importante, c'est l'accompagnement des écoles dans la démarche de labellisation E3D, c'est-à-dire école à démarche et développement durable. Et actuellement, nous accompagnons l'école Gaston Larieux à Saint-Paul-et-Dax, c'est-à-dire une dizaine de séquences d'une matinée chacune. Donc, il ne nous en reste plus que deux pour des aspects vraiment didactiques. Exemple, hier, nous étions à Larieux avec les deux classes de CM et nous étions cinq. Nous avions les enfants par groupe de 3 ou 4 gosses et ils ont pu expérimenter pendant 3 quarts d'heure avec ils créaient des circuits électriques en série, en dérivation, avec des lampes, des buzzers, des piles, des pinces crocodiles, enfin tout ce qu'il faut pour vraiment réaliser, expérimenter. Et moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, d'autant que je peux m'appuyer sur des gens qui ont des compétences que moi, je n'ai pas.
Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir ce genre d'action, Bernard. Vous êtes. Alors, on en parlait justement en off.
Alors, justement, ça, c'est aussi dans le cadre de notre soutien à la démarche scientifique et à une orientation positive vers les métiers de l'ingénierie, les métiers de l'artisanat, pardon, et toutes les filières technologiques et techniques. Voilà, ça fait partie aussi de notre détermination, parce que tout le monde ne peut pas s'orienter vers le commerce. Il faut produire avant de vendre. Voilà. Et ceci dit, il y aura aussi, avec les mêmes élèves, des actions beaucoup plus ludiques, puisqu'on aura sûrement une journée au mois de mai ou juin qui sera totalement ludique, où on emmènera tous nos petits modules qui fonctionnent à l'énergie solaire ou avec de l'hydrogène et qui permettront aux enfants de se sensibiliser aux énergies nouvelles. On n'agit pas que sur Saint-Paul. Hein. Dans le passé, on a travaillé avec l'école de Hermes. Bientôt, nous irons aussi au mois de juin à l'école Sully à Dax. Et là, nous irons dans le cadre de l'orientation positive à Montfort, où 4 ou 5 de nos partenaires de TESP qui se sont dirigés vers les métiers de l'ingénierie pourront expliquer leur parcours, certains des parcours classiques passant par les arts et métiers, mais d'autres par la promotion interne, en ayant été ouvrier auparavant. Et ça, c'est extraordinaire pour les enfants de partager ces expériences, c'est du vrai vécu.
Très bien. On parle aussi, alors peut-être, est-ce que vous sentez des fois, lorsque vous rencontrez des enfants qui sont peut-être ignorants à ce genre de métier, est-ce que vous les sentez passionnés, vous les sentez attirés par ce genre de métier de l'ingénierie, de tout ce qui concerne un petit peu la science?
Non seulement on trouve qu'ils sont passionnés, que c'est facile de s'intéresser, mais ce qui est plus important encore, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de connaissances et de compétences qui ne demandent qu'à être exploitées. Et c'est là où peut-être que l'école, avec un grand E, que l'enseignement doit progresser et doit utiliser ce type de compétences.
On en parlait justement en off, en début d'émission, que les métiers de l'ingénierie, de la science se perdent un peu. On sent des gens moins attirés par ces métiers. Comment ça s'explique, François ?
Effectivement, il y a une méconnaissance du domaine. On parle toujours de risque industriel. Ça fait une quarantaine d'années qu'on parle de risque industriel, ce qui repousse un petit peu les gens là-dessus. Et en fait, on ne parle pas assez de carrière passionnante. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait une carrière dans l'industrie, dans l'électricité. Franchement, je ne me suis jamais ennuyé une heure dans toute ma vie professionnelle. Et effectivement, le problème, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance. Alors, on est dans les Landes, et je pense qu'il y a peu de gens qui savent que le département landais est un département industriel. Il y a des industries dans le bois, il y a des industries dans l'agroalimentaire, il y a une industrie dans le papier. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font. Et les gens ne le savent pas forcément. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite.
Bien sûr.
Dans 15 jours, pile, on organise une opération dite usine ouverte, dans laquelle les 3 entreprises landaises vont accueillir des scolaires pour leur montrer ce que c'est la vraie vie dans une usine, ce qu'on peut y faire, les choses intéressantes qu'on y voit vraiment. Et ça résonne avec ce que Bernard exposait sur les jeunes. Quand on leur met des outils en main, ils sont tout de suite très, très intéressés, passionnés, etc. Ils adorent toucher les choses. Et donc, lors de cette opération dite usine ouverte, donc il y a des lycées, collèges qui vont venir voir comment ça fonctionne dans ces usines. Hein. Donc, il y a Gascogne Flexible à Dax, il y a Atelier Film aussi à Dax, et il y a Dassé Construction à Casse-Tête, Dassé Construction qui fabrique des bungalows en bois. Et c'est une belle industrie aussi, très très landaise, hein, avec du bois, bien entendu. Et donc, ça va être une très belle opération. Et Atelier Film accueille le samedi le grand public. Donc si vous en avez envie, vous allez sur le site usine-ouverte.fr et vous allez avoir la possibilité de vous inscrire pour le samedi.
On pourra vous y rencontrer, François, Bernard, lors de ces ateliers, de ces rencontres ?
Il y a de fortes chances que moi, personnellement, j'aille faire le tour des entreprises, et même le samedi.
Très bien. Alors, on parlait aussi un petit peu de ces ateliers de sensibilisation. C'est aussi une volonté, peut-être, de votre part, d'être dans la transmission de savoir, de connaissances. Je suppose que c'est volontaire de votre part, Bernard ?
Oui, au-delà de la transmission, c'est donner l'appétit aux autres, que ce soit des enfants ou des adultes. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on sort aussi du milieu scolaire, puisqu'on va à la rencontre des populations avec le partenariat d'autres associations. Par exemple, début mai, nous allons un dimanche à Rivia. Alors, c'était prévu le 18, je crois que ça a changé, ça sera le 11, avec l'association Les Petits Ruisseaux. Voilà une bonne idée pour vous. C'est une association que vous pouvez inviter.
Bien sûr.
C'est un partenaire depuis 3-4 ans. Et nous intervenons à leur côté. Il y a des trocs de plantes. Il y a diverses associations qui sont là aussi pour montrer ce qu'elles font. Et puis, il y a un moment convivial qui est très, très sympathique aussi. Et pour nous aussi, l'actualité, c'est la rencontre avec le berger qui va s'occuper de la maintenance de notre parc photovoltaïque à Carnat. C'est important. On va le rencontrer pour savoir ce dont il a besoin. Et puis, quels sont ses projets pour être un vrai partenaire de notre société d'énergie.
Très bien. On parle un petit peu de projet, on parle un petit peu de futur. Bernard, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'association de transition énergétique de Saint-Paul ? Quels sont les grands projets en vigueur qui arrivent ? Ou peut-être même en réflexion ?
Alors, d'abord, comme nouveau grand projet, c'est peut-être au-delà de Candat, et quand Candat sera vraiment lancé, que les premiers électrons partiront sur les réseaux, c'est chercher d'autres projets. Avec des partenaires ou pas, mais sûrement des partenaires qui soient des sociétés, d'autres citoyens ou d'autres groupes d'associations, de citoyens, pardon, comme Aloé, l'association qui agit sur le pays d'Andadour-Océane, association avec laquelle on peut établir un partenariat beaucoup plus riche qu'aujourd'hui.
Très bien. Donc peut-être une seconde centrale, peut-être, dans le futur. C'est envisageable ?
C'est tout à fait envisageable. On peut trouver des solutions. Alors ça peut être des centrales au sol ou ça peut être des centrales en toiture. Et en particulier, s'il y a des particuliers ou des entreprises qui souhaitent s'équiper, nous sommes à leur disposition. On a un certain nombre de compétences. Donc Bernard l'a dit, on est un certain nombre de gens qui savons à peu près de quoi on parle quand on parle de photovoltaïque. Et donc on peut appuyer les choses là-dessus. En plus, on a des compétences aussi en pilotage de projet maintenant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tout à fait envisager.
Vous donnez une référence, en toute humilité, évidemment. Je tiens à le préciser, en toute humilité.
Il ne faut pas avoir la grosse tête. Voilà. Mais bon, ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on a un ensemble de compétences. Il y a plein de types dans l'association qui ont eu une vie professionnelle vers ces métiers-là et qui savent de quoi ils parlent, davantage que moi.
Oui, donc forcément, il y a un côté connaissance, les gens savent de quoi ils parlent. Et forcément,
ce sont des professionnels et qui mettent leur temps libre à la retraite et même au-delà, au service de la collectivité.
Et vous êtes surtout soucieux de l'environnement, c'est aussi important de le souligner.
Alors oui, ça c'est l'occasion de rappeler les trois valeurs de Candat, qui sont le respect de l'environnement, la citoyenneté. Donc c'est pour ça qu'on cherche à avoir l'adhésion des citoyens, l'adhésion matérielle des citoyens. Et enfin, la proximité, puisqu'on fait appel au maximum à des entreprises locales.
Donc on fait...
Et à ce sujet, justement, je peux rappeler que nous avons été accompagnés par rapport à l'étude environnementale par une société locale, Eten, qui est basée à Saint-Poédax, dont le travail remarquable a été souligné, y compris par les services de l'État.
Très bien. Donc au final, on est fiers de ces landes et on les porte fièrement.
Tout à fait.
C'est important. Bernard, François, on marque une dernière pause musicale et il faudra conclure malheureusement cette émission. Vous voyez, c'est passé à une vitesse folle. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On conclut cette émission ensemble. On écoute une petite musique en attendant. Ça va ?
Très bien.
Allez, à tout de suite sur Souvenir FM. Bernard et François, ça va toujours ? Un petit peu déçu ? Non ?
Non.
C'est passé vite, hein ? Comme d'habitude. Alors, on conclut un petit peu cette émission ensemble. Évidemment, moi, je cherche à savoir où est-ce qu'on vous retrouve. Vous avez un site internet, des réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, François ?
Alors, tout à fait. Donc, on a un site internet qui s'appelle tesp.fr. Donc, très facile à trouver sur internet. Également, nous avons des réseaux sociaux. Essentiellement, c'est Facebook et LinkedIn.
Très bien.
Et donc on essaye d'y être actif dessus, donc n'hésitez pas à nous suivre, on aime bien qu'on nous suive, et puis ça permet de passer des messages d'actualité, en particulier donc l'émission va se retrouver certainement sur les sites très rapidement.
Avec plaisir. Évidemment, une autre question, est-ce que...
Alors,
oui, bien sûr Bernard.
Moi j'aimerais bien qu'on recrute des nouveaux, alors oui. On a eu la chance récemment de recruter un jeune homme pour nous, il a 48 ans, vous vous rendez compte. il avait une entreprise, il change d'orientation et il a un peu plus de temps libre, donc il nous a rejoint et bon, tout le monde peut nous rejoindre. On se réunit toutes les semaines, le mardi à 8h, soit à la mairie en alternance avec l'AMICA, l'ancienne maison des associations. Toutes les compétences sont bonnes à prendre, même s'il n'y en a aucune. En fait, ça n'existe pas, aucune compétence. Chacun peut apporter quelque chose à un groupe.
Oui, forcément. Donc voilà, si nos auditeurs souhaitent s'investir justement dans cette association Transition énergétique de Saint-Paul, ben voilà, vous pouvez faire appel à Bernard ou François qui vous répondront avec plaisir. Du coup.
Ah oui, tout à fait.
Évidemment, moi j'avais une autre question. Comment se passe le soutien, peut-être citoyens, alors les Saint-Paulois ou même les citoyens du Grand Axe peuvent-ils encore s'impliquer dans ce projet Grand Axe ?
Alors, les citoyens Saint-Paulois, bien entendu, les citoyens du Grand Axe, bien entendu aussi, mais quels que soient les citoyens. Dans la présentation de la fête du permis de construire et de l'actionnariat citoyen, on a dit que c'est ouvert aux citoyens du monde.
D'accord.
Donc voilà.
Alors, ouvert aux citoyens du monde et avec un soutien particulier de la région Nouvelle-Aquitaine. Chaque fois qu'un citoyen de Nouvelle-Aquitaine investit 1 euro, la région investit 1 euro à concurrence de 250 euros par personne.
Très bien.
Voilà, dans le soutien à la société citoyenne.
Très bien. Donc voilà, si nos auditeurs souhaitent s'investir, souhaitent s'impliquer, qui veulent, moyennant finance, ils peuvent toujours. Et on se rend sur le site internet directement ?
On se rend sur le site internet, on clique sur le bandeau qui est en haut, j'investis dans Candat, et à ce moment-là, je vous dis, la procédure se déroule tout à fait normalement.
Voilà, mais il faut le rappeler, il y a l'investissement financier, mais l'investissement humain qui est tout aussi important.
Très bien. Eh bien, Bernard, François, il va être temps pour moi de vous remercier. Merci beaucoup de votre engagement et de faire rayonner justement cette ville de Saint-Paul-et-Dax sur ce territoire landais. Merci beaucoup à vous.
Merci
messieurs.
À vous.
Merci à vous.
Une nouvelle fois.
Mais c'était un plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, messieurs. Une bonne journée à vous. Le temps passe vite et il est déjà l'heure de conclure cette belle émission avant de quitter un aperçu de notre invité de lundi prochain. Nous accueillerons la compagnie du Miel Noir. Restez à l'écoute de Souvenir FM. Dans quelques minutes, retrouvez le Flash Info national et international suivi, comme d'habitude, de votre session musicale avec Christophe jusqu'à 16h. Et bien sûr, nous, on se retrouve à 18h30 pour votre point complet sur l'actualité locale. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Passez un excellent week-end à l'écoute de Souvenir FM. Adi Schatz.